VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Fin de la tournée du secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Afrique subsaharienne, le chef de la diplomatie américaine a conclu son périple dans trois pays africains ce mercredi avec un discours à Addis Abeba où il a mis en garde contre les promesses creuses des régimes autoritaires et vanté le secteur privé américain comme une alternative. Les pays devraient se méfier des régimes autoritaires aux promesses creuses qui engendrent la corruption et la dépendance, a assuré M. Pompeo dans un discours prononcé devant les diplomates et des chefs d'entreprise à la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies dans la capitale éthiopienne. Il a ajouté que les pays récipiendaires courent le risque que la prospérité, la souveraineté et le progrès dont l'Afrique a tant besoin et qu'elle souhaite désespérément ne se réalisent pas. Mike Pompeo n'a pas cité nommément la Chine, mais le géant économique d'Extrême-Orient est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Après 3 ans d'administration Trump, le secrétaire d'État Pompeo est le plus haut responsable américain à effectuer une tournée en Afrique subsaharienne où il a visité le Sénégal, l'Angola et l'Éthiopie. Agitation anglophone. Au Cameroun, l'ONU a réclamé mardi aux autorités camerounaises une enquête indépendante, impartiale et complète après la mort de 23 personnes, dont une majorité d'enfants, au cours d'une opération militaire dans un village de l'Ouest anglophone en proie à un sanglant conflit séparatiste. L'armée camerounaise, pour sa part, parle d'accidents malheureux. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Tchad, le ministre de la Justice a relevé hier la recrudescence des attaques menées par les islamistes de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Il a aussi estimé que la réponse militaire ne peut être la seule. Plus de détails avec John Lyndon.
Je pense que la réponse militaire à elle seule n'est pas suffisante, a affirmé hier le ministre Djimet Arab. Il faut aussi avoir une réponse sociale, a-t-il ajouté, car selon lui, à la base de toutes ces actions, il y a d'abord la pauvreté. La multiplication des attaques a été confirmée par Ahmad Mohamed Hindi, conseiller à la sécurité du gouverneur de la province du Lac, qu'il impute à la montée des eaux du bassin, assurant qu'à la période de décrue, les éléments de Boko Haram se replieront sur les îles. Selon lui, les éléments de Boko Haram se servent des petites pirogues sans moteur appelées communément teke-teke, se déguisent en pêcheurs rendant la traque plus difficile. Début janvier, l'ensemble des 1200 militaires tchadiens déployés au Nigeria étaient ramenés au pays pour être redéployés autour du lac Tchad. Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme présentait hier son rapport sur les désengagés ou anciens membres de Boko Haram. Cette ONG relève que 54% des 4200 personnes désengagées sont des femmes et que près de 70% d'entre elles ont des difficultés pour se loger et se nourrir.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Mali, un bataillon de l'armée nationale comprenant d'anciens rebelles et d'ex-miliciens pro-gouvernementaux a pris ses quartiers hier à Tombouctou. 5 jours après le retour de l'armée nationale à Kidal, ville symbole dans le nord du pays. Le point avec Bagassi Koura.
Le bataillon qui a été accueilli hier lors d'une cérémonie au camp Cheikh Sidi Bekaï de Tombouctou comprend d'anciens rebelles et d'ex-membres de groupes pro-gouvernementaux intégrés dans l'armée malienne conformément à l'accord de paix d'Alger de 2015. Ils sont 300 pour le moment, a déclaré le colonel Boubacar Sanogo, commandant de la région militaire de Tombouctou. Il n'y a plus de CMA, alliance à dominante Touareg, ni de plateforme, une alliance de groupes pro-gouvernementaux, mais les FAMA au service de la nation, a indiqué l'armée dans son communiqué. Contrairement à Kidal, où l'armée a connu une débâcle en 2014, les forces armées étaient déjà présentes à Tombouctou. Ce déploiement de l'armée dite reconstituée à Kidal et Tombouctou doit être suivi par une implantation pareille à Menaka et à Gao, une étape de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger en vue de l'intégration des ex-combattants et la restauration progressive de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
présidentielle américaine de 2020, les candidats à l'investiture du parti d'opposition démocrate s'affronteront dans un autre débat ce mercredi à Las Vegas, dans l'État du Nevada. Grâce à sa percée dans les sondages d'opinion, où il vient maintenant en deuxième position, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, sera de la partie. Pour expliquer la fulgurante montée du milliardaire, Timothée Donangmaï a joint à Alexandria en Virginie Brent Bourin, président de Global Situation Room.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une satisfaction au niveau des démocrates avec leurs options. Nous avons vu l'ancien vice-président Biden qui n'a pas reçu l'appui des gens en Iowa, en New Hampshire, qu'on s'attendait. Alors, ils sont en train de chercher, surtout les gens du centre, ils cherchent quelqu'un qui pourrait être une bonne option face au président Trump.
Quel avantage présente Bloomberg dans cette course?
Premier avantage, c'est la quantité d'argent qu'il dépense dans sa campagne. Mais il faut aussi prendre en compte que Bloomberg, il était maire de New York. C'est pas une petite position. Il a assez d'expérience, non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans ses activités non gouvernementales. Il a travaillé beaucoup dans le domaine politique, contre les armes, contre les changements climatiques. Alors, il a assez d'expérience dans ce domaine. Il n'est pas comme les autres gens riches qui se présentent sans avoir occupé des positions, sans avoir vraiment participé dans des débats nationaux.
Comment Bloomberg se mesure-t-il au président Trump?
Ce que m'a vraiment frappé des communications, des publicités de Bloomberg, c'est qu'il est assez fort, assez direct avec sa façon d'attaquer le président Trump. Et c'est vraiment une différence qu'on constate avec lui parce qu'il est un New Yorker, il est quelqu'un qui sait bien comment les New Yorkers comme Trump communiquent et je crois que aussi la quantité d'argent qu'il a en comparaison avec une quantité, on pourrait dire, même si on ne sait pas exactement la somme complète d'argent qu'il y a Trump, Bloomberg, il est beaucoup plus riche, on peut dire, et c'est peut-être une source de problèmes personnels que Trump aura avec la candidature, parce que chaque fois que Trump essaie de se présenter comme quelqu'un riche, quelqu'un qui connaît très bien le business, Bloomberg va dire « Ah bon, j'ai assez d'argent et beaucoup plus d'argent que toi ».
Brent Bruen, président de Global Situation Room, joint à Alexandria en Virginie. Actualité américaine toujours, conflit en Afghanistan. Les talibans afghans et les États-Unis sont sur le point de signer au Qatar un accord historique après plus d'un an de négociations directes. Les détails ont été finalisés et le conseil dirigeant des talibans aurait déjà donné son aval à son équipe de négociateurs. Plus de détails avec Kia Badou.
Ado, un responsable afghan, a assuré que cet accord pourrait être signé le 29 février si la réduction de la violence annoncée par les Américains et les talibans est respectée. Cette trêve partielle qui doit durer une semaine doit mener à la signature d'un accord entre les États-Unis et les talibans afghans. Ce pacte prévoit le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan en échange de garanties sécuritaires des insurgés. Une fois signé, il doit ouvrir l'étape suivante des négociations entre les talibans et le gouvernement de Kaboul qui n'a pas participé aux discussions au Qatar. À plusieurs reprises, Washington et les talibans ont semblé sur le point de parvenir à un accord. En septembre 2019, les négociations ont été rompues par le président Donald Trump après une attaque meurtrière à Kaboul. Elles ont été relancées deux mois après et jeudi dernier, M. Trump a estimé qu'un accord était très proche. Samedi, le président afghan Ashraf Ghani, dont la réélection vient d'être annoncée, a dit espérer un accord dans les 10 jours. Il a toutefois reconnu qu'un doute subsistait sur la sincérité des insurgés d'arrêter la violence.
Conflit en Syrie pour terminer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé ce mercredi de déclencher de façon imminente une offensive militaire à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où des affrontements ont opposé ces dernières semaines les forces turques à celles de Damas, à savoir le régime du président Bachar al-Assad à la tête de la Syrie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.